Il y a encore des interrogations, des doutes, des hésitations, des débats, peut-être des conflits d'experts. Je vais vous proposer qu'on passe la parole tout de suite à Patrick Lachassagne, qui lui est en vidéo, et on fera une discussion après ces deux interventions, parce que Patrick Lachassagne va aussi nous dire des choses un petit peu plus... Il a dit iconoclaste, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas ça repose la question de cette réalité, de ce que je rappelais tout à l'heure, le rôle de couverture, le rôle de filtre, le rôle d'éponge. Vous avez déjà commencé un peu à le faire dans certaines circonstances, ce n'est pas évident. Et on pourra y revenir après la deuxième intervention. D'accord ?
Tout à fait.
Vous pouvez rester comme vous voulez, le plus confort. Denise, est-ce qu'on a Patrick Lachassagne au fil ? On l'a. Donc Patrick Lachassagne est hydrologue, je crois qu'on dit, plutôt que hydrogéologue, au laboratoire Hydrosciences de Montpellier. Mais il a aussi beaucoup d'autres titres. Vous avez, Patrick, 20 minutes qui peuvent devenir 22 ou 23 si vous êtes très gentil, mais guère plus, hein, parce qu'on a des horaires à tenir. À vous.
Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien ?
Oui, c'est bon, ça résonne un petit peu, peut-être que ça peut s'arranger. Continuez ? Ok.
Parfait. Écoutez, merci, bonjour à tous et toutes mes excuses pour ne pas être présent avec vous, mais les emplois du temps sont un peu ce qu'ils sont. Je vais essayer de partager mon écran, on va voir si ça fonctionne. Toc. Voici. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez en mode présentation?
Parfaitement.
Voilà. Bon, donc je suis effectivement hydrogéologue, donc plutôt spécialiste des eaux souterraines, mais les eaux souterraines dans l'ensemble du cycle de l'eau. Hein, c'est pour ça que j'ai mis un peu entre parenthèses le géo d'hydrogéologue. Et je vais un petit peu compléter la très intéressante intervention de Claude qui était juste avant, sûrement en descendant cette fois-ci à l'échelle du bassin versant, à l'échelle donc de l'unité de gestion pour l'hydrologue, l'unité de gestion de l'eau pour l'hydrologue, et qui est sûrement aussi, dans la plupart des cas, celle du forestier. Ce que je vous propose, c'est effectivement... d'une part, de revenir sur les fonctions assurées par la forêt brièvement, quelques fondamentaux d'hydrologie pour compléter ce qu'a dit Claude, et puis quelques affirmations ou quelques éléments de relation entre hydrologie et forêt avant de passer à quelques conclusions. Alors, les fonctions assurées par la forêt, vous les connaissez tous beaucoup et j'y reviendrai pas beaucoup en détail. Une fonction de production de bois, de stockage de carbone, de protection de la biodiversité, récréation, de lutte contre l'érosion, etc. Et puis, de temps en temps, on lit aussi, et notamment lors du séminaire qui nous accueille aujourd'hui, une notion de filtre, éponge, couverture. Alors, je mets un petit peu des guillemets à ces mots-là parce que ce n'est pas vraiment des mots d'hydrologue, hein. Ou aussi que les sols forestiers joueraient un rôle dans le stockage et la circulation de l'eau. Donc on voit que l'eau, hein, comme l'a déjà un peu abordé Claude, est au cœur de ces interrelations entre la forêt et le cycle de l'eau. Alors on entend, comme l'a dit Claude, la forêt fait pleuvoir, elle joue un rôle d'éponge, elle capterait l'eau et la restituerait aux cours d'eau et aux nappes d'eau souterraines, elle favoriserait la recharge des nappes, elle préserverait la qualité des eaux souterraines. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit point avec ma vision des choses à l'échelle du bassin versant, à l'échelle locale, sur ces différents points. Et donc, s'intéresser à l'eau, qui est l'eau ressource, en termes de quantité et de qualité. Alors, si je reviens à ces quelques fondamentaux d'hydrologie, et pour compléter ce qu'a dit Claude, l'élément clé, comme il l'a dit, c'est la pluie. Hein? Et ce petit schéma quadrillé là que j'ai représenté, c'est pour donner une idée sur une zone donnée de la quantité de pluie qu'il va tomber. Comme l'a dit Claude aussi, un deuxième point clé, c'est l'interception et l'évapotranspiration qui est finalement liée au retour de l'eau vers l'atmosphère, du fait principalement des végétaux. Et ce qui reste, que j'ai laissé en bleu pour faire le parallèle avec ce que disait Claude tout à l'heure, puisqu'il l'a appelé l'eau bleue, c'est ce que nous appelons, nous, hydrologues, dans notre jargon, les pluies efficaces, c'est-à-dire la quantité de pluie qui reste une fois que l'eau de pluie a été reprise par interception et évapotranspiration. Et cette eau qui reste, elle va pouvoir se transformer soit dans des écoulements rapides, du ruissellement, soit en recharge des nappes, donc des écoulements plus lents. Voilà. Et je me répète un petit peu, hein, mais cette pluie efficace, cette eau bleue, c'est l'eau disponible pour les écoulements. Et comme l'a dit Claude aussi, ben, ces écoulements, ils vont avoir des usages anthropiques et aussi des usages dévolus aux écosystèmes qui ont besoin d'eau, qui sont principalement les écosystèmes des zones humides, des rivières, etc. Je mets de côté les écosystèmes qui utilisent l'eau verte pour l'évapotranspiration. Un deuxième élément en termes d'hydrologie, c'est comment cette eau de ruissellement et de recharge, elle se répartit dans le temps, parce que c'est un élément capital d'introduire cette notion de temps. Donc, je vous présente ici, grosso modo, le débit d'une rivière, donc en ordonnée le débit en fonction du temps. Et puis, on va simplifier un petit peu les choses, on va le regarder sur une année. Les deux barres, c'est le début et la fin d'une année. Et on va plutôt parler d'années dans notre jargon qu'on appelle des années hydrologiques que des années civiles. L'année hydrologique, c'est une année qui commencerait à la saison des pluies. Alors chez nous, en Europe, ça va plutôt être normalement, en théorie, hein, en octobre, novembre, décembre, ça commence en ce moment-là. Et puis, on voit que chaque année, il y a une saison des pluies et une saison sèche. Et en région méditerranéenne, ça marche assez bien aussi, hein, puisque la saison des pluies, elle est essentiellement septembre, octobre, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Un petit peu moins en hiver, un tout petit peu au mois d'avril-mai, et puis après une longue saison sèche. Et logiquement, on voit que le débit de la rivière, ben, il augmente au début de la saison des pluies, avec un certain décalage, hein, et on verra que ce décalage, c'est principalement de restocker de l'eau dans les sols. Il passe par un maximum, et puis il décroît. Et en saison sèche, on a quand même encore souvent de l'eau dans certaines rivières. Et on va voir pourquoi. Justement, ben, nous, hydrologues, on a des méthodes pour partager ces écoulements de l'eau avec une partie, la partie haute, qui correspond à ce qu'on appelle un petit peu simplement du ruissellement, et puis une partie basse, qui constitue finalement pas la recharge des nappes, mais l'eau qui a circulé dans les nappes et qui est restituée par celle-ci aux rivières. Donc, en d'autres termes, en saison sèche, l'eau des rivières, c'est essentiellement de l'eau souterraine qui a été rechargée dans les nappes dans les mois qui ont précédé, dans là où les saisons des pluies qui ont précédé, et qui ressort de ces nappes et qui alimente les rivières. On voit que cette eau des nappes, elle coule toute l'année, mais c'est surtout en saison sèche qu'elle est visible dans les rivières, et sans elle, on n'aurait pas d'eau qui coule dans les rivières. Alors, je mets ces éléments un petit peu temporels pour voir un petit peu maintenant comment la forêt va impacter ces éléments-là. Alors, je vais être peut-être un peu plus iconoclaste, comme vous l'avez dit en introduction, et un petit peu plus lapidaire, sans rentrer dans des débats importants que Claude, pour dire que, grosso modo, la forêt ne fait pas pleuvoir. Alors, ça, on peut mettre effectivement un petit bémol. C'est lié au fait que quand on raisonne à l'échelle d'un territoire donné et de travaux forestiers donnés, on montre que des coupes forestières, elles ne réduisent pas la pluviométrie localement là où on les fait et vice-versa. Néanmoins, comme l'a dit Claude, dès qu'on va sur des très grands bassins versants, on voit que la réduction ou du moins la déforestation amazonienne, quand elle commence à faire plus que 10, 20, 30, 50%, peut avoir un impact sur les transferts d'eau continentaux. Et là, moi, je me place à l'échelle de travaux forestiers que vous allez faire sur quelques kilomètres carrés ou quelques dizaines de kilomètres carrés en région méditerranéenne, par exemple. Bon, il faut aussi passer sous silence des quelques petits cas particuliers de ce que l'on appelle les précipitations occultes. Vous savez, dans certaines régions du monde, quand la forêt intercepte du brouillard, ça génère finalement des précipitations sous les arbres. Et si on coupe la forêt, ben, on a moins d'interception de ce brouillard. On a ça dans des régions très arides, par exemple, telles que le désert d'Atacama. Bon. Néanmoins, je dirais, si on veut se placer dans l'optique du gestionnaire, à l'échelle de bassins versants, de territoires sur lesquels vous allez agir, vous agissez aujourd'hui ou dans les années à venir, ne considérez pas que de replanter de la forêt va faire pleuvoir plus. Deuxièmement, la forêt peut réduire le ruissellement et notamment les problèmes d'érosion. C'est le cadre que j'avais mis ici en rouge, cette eau qui coule rapidement, qui n'est pas très utile parce qu'elle génère des crues, des inondations, et elle crée des risques, notamment d'érosion. Elle peut réduire le ruissellement. Attention quand même, ce que montre la bibliographie, c'est que si on fait de la déforestation, on a une augmentation des pics de crues, mais c'est essentiellement visible sur des petits bassins versants, de petite taille, moins de 10 km². Et pour les événements pluvieux, faible à moyen. En d'autres termes, pour des forts événements pluvieux, ça se discute au niveau de la science. Et gardons bien à l'esprit que les principaux déterminants des crues, et notamment à plus grande échelle, c'est la pluviométrie. Bon, ça paraît être un peu une tautologie ou de la palissade, le volume et surtout l'intensité de la pluie. Mais aussi la pluie antérieure, hein, quand on a des sols qui sont relativement secs, ben on va d'abord recharger en eau ces sols avant que la pluie devienne efficace. Mais aussi et beaucoup la géomorphologie, hein, donc les pentes fortes, on y reviendra, hein. Sur des pentes fortes, on a des crues importantes. Et finalement, le type de végétation vient en deuxième partie, en deuxième ordre. Et attention aussi, on voit que c'est surtout la couverture des sols qui est importante. Donc effectivement, si vous coupez une forêt et que vous laissez des sols totalement nus, vous allez avoir beaucoup d'érosion. Mais les études montrent que dès que quelques années après ou quelques mois après, une couverture herbacée notamment vigoureuse a pu reprendre le dessus, eh ben, l'érosion, elle est beaucoup plus faible. Donc ces conditions de surface des sols sont très importantes. Deuxième point, comme l'a dit Claude, la forêt réduit la pluie efficace. L'interception et l'évapotranspiration d'une couverture de type culture, hein, j'ai noté tout à l'heure les chiffres que disait Claude, hein, un blé 200 mm par an d'évapotranspiration, vous remplacez ça par du pin des Landes et vous passez, vous faites plus que tripler puisque vous passez à 650 mm par an. Donc tout ça, c'est tout ça d'eau pour le ruissellement et l'infiltration en moins. Et donc, c'est voilà, c'est des pluies efficaces, voire moins. Alors, Claude l'a dit, hein, l'interception, c'est de l'évapotranspiration, hein, donc c'est bien de la pluie qui reste stockée sur le feuillage des arbres et qui se réévapore. Et attention, c'est lié à la végétation, au type de végétation, mais aussi et beaucoup au climat. En d'autres termes, hein, si vous êtes en Bretagne, et qu'il pleut quelques millimètres par jour, ces quelques millimètres, c'est à peu près la capacité de stockage sur les feuilles des arbres. 1, 2, 3 millimètres maximum. S'il pleut tous les jours 1 ou 2, 3 millimètres, vous allez les évapotranspirer tous les jours. À l'inverse, si vous êtes en climat méditerranéen, ces 2 ou 3 millimètres, mais qui ne viennent que lors de quelques journées très pluvieuses par an, ça va faire très peu. Hein, donc l'évapotranspiration, pardon, l'interception, elle va être d'autant plus importante qu'on est dans des régions à climat de type pluie régulière et donc moins important au climat méditerranéen. Par contre, bon, l'interception est plus importante en forêt que d'autres occupations du sol. Hein, des arbres captent plus d'eau par interception que de la prairie, par exemple. Et si on passe à l'évapotranspiration, qui est finalement le phénomène majeur, hein, c'est 3 ou 4 ou 5 fois plus que l'interception, Elle est plus importante en forêt parce que le feuillage est plus développé, hein. C'est ce qu'on appelle la surface foliaire, parce qu'il y a une rugosité de la forêt sur plusieurs mètres de haut ou dizaines de mètres de haut qui crée de la turbulence et qui favorise cette évapotranspiration, la couleur sombre des feuilles, et comme l'a dit Claude, et aussi et surtout, c'est l'élément clé, l'exploration racinaire, c'est-à-dire que les racines d'une forêt descendent à plusieurs mètres dans le sous-sol, donc vont pouvoir mobiliser plus d'eau stockée dans le sol. Et on le verra aussi, certains types de végétaux bien adaptés peuvent descendre, prélever de l'eau directement dans la nappe d'eau souterraine. Donc on a un double effet, je dirais récupération et évapotranspiration de l'eau qui est contenue dans le sol, donc dans la partie, dans les premiers mètres où on a de l'eau qui est liée au grain de sol, mais aussi dans certains cas, et je pense qu'il y aura un exposé de Simon Carrière un peu plus tard, des racines qui descendent profondément et qui viennent réellement pomper de l'eau dans la nappe, comme le feraient des humains avec des forages. Voilà, donc en règle générale, une diminution des puits efficaces qui, on le voit sur certains schémas, bien entendu, c'est assez évident. Alors là, on le voit, c'est un schéma où on montre l'excès, le gain d'eau que l'on récupère lorsqu'on déforeste des bassins versants. On voit, c'est assez logique, hein, qu'il est plus important pour des arbres non caducs que pour des arbres caducs, hein, et les conifères prélèvent plus. On voyait bien tout à l'heure l'exemple des 650 mm des pins des Landes, hein. Voilà, que c'est bien entendu proportionnel au taux de déboisement. Aussi, ce que l'on montre, c'est que, bien entendu, c'est proportionnel aux précipitations, mais même en pourcentage, c'est-à-dire qu'avec des précipitations faibles, cet effet est faible, mais dès que les précipitations deviennent plus importantes, il peut atteindre jusqu'à 20%. Voilà. Alors, certains diront, finalement, la forêt peut peut-être stocker un peu plus d'eau, ou du moins limiter l'érosion lors des périodes de crue, et ça pourrait éventuellement compenser la surconsommation d'eau. Alors, je reprends ici les courbes de Zhang, hein, qui sont très célèbres parce que même Claude l'a cité tout à l'heure, hein, c'est des courbes mondiales qui permettent de comparer des bassins versants en prairie à des bassins versants forestiers. Et si vous faites la différence des deux, ben vous avez ce qu'on pourrait appeler un petit peu la surconsommation forestière. Alors attention, ce sont des valeurs moyennes, hein, et le graphe en bleu que j'ai mis ici donne un peu la notion de l'incertitude. Néanmoins, hein, on voit que même si on arrivait à, je dirais, convertir 100% du ruissellement, hein, vous vous souvenez, il y avait deux parties, hein, il pleut, on a des écoulements rapides du ruissellement et des écoulements lents. Si la forêt arrivait à ralentir 100% du ruissellement et le transformer en évapotranspiration, on voit qu'en général, on n'arrive pas à compenser ce surcroît d'évapotranspiration. Donc, les deux arguments sont conciliables, mais peuvent difficilement être utilisés ensemble. Finalement, la forêt, si elle augmente la capacité de stockage d'eau dans le sol, si c'est le cas, grâce à de la litière ou autre, finalement, elle le fait à son propre profit, elle va évapotranspirer cette eau derrière. Alors, j'ai beaucoup parlé de quantité, passons un petit peu à la qualité des eaux.
Il vous reste 5 minutes.
D'accord, merci pour le rappel. Alors, la forêt, elle joue pas particulièrement un rôle protecteur, mais elle a quand même un effet bénéfique, tout simplement parce que les interventions en forêt sont beaucoup moins fréquentes qu'en milieu agricole. Donc, du point de vue des apports de nitrates, d'engrais, de nitrates, de phytosanitaires, etc., si on n'intervient pas ou quasiment pas, c'est-à-dire une fois tous les quelques années ou une fois tous 10, 15, 20 ou 50 ans lorsqu'on fait des coupes, c'est beaucoup moins préjudiciable que dans le domaine agricole où on intervient plusieurs fois par an. Néanmoins, lorsqu'on parle de protection de la ressource en eau et des captages, ben, il faut avoir quelques précautions. C'est-à-dire qu'il faut que la surface concernée soit significative, parce que finalement, on joue un rôle par dilution. Donc, si on a un bassin versant et un captage, et que le terrain que j'ai représenté en jaune, c'est de l'agriculture, et qu'on va mettre de la forêt uniquement sur 10% du territoire, on ne va gagner qu'un dixième de la pollution. Donc, en d'autres termes, il faut que ce soit significatif. Donc, bien délimiter le bassin versant d'alimentation et avoir un rôle sur, je dirais, 80 ou 90% selon le taux de dilution qu'on veut obtenir. Et puis, garder en tête, hein, de ne pas avoir un effet quantitatif qui pourrait être préjudiciable. C'était le chapitre précédent. Et puis, ça, c'est quelque chose de capital, ne pas sous-estimer la durée du retour au bon état. Donc, calculer en fait combien d'eau, entre guillemets, contaminée est stockée dans le bassin et en combien de temps elle sera renouvelée. On montre que c'est plutôt des décennies que des années, en fait. Hein, donc, bien garder ça en tête. Ce n'est pas spécifique à la forêt, hein, c'est spécifique au bassin versant, mais gardez en tête pour ne pas décevoir en disant ben, on a planté, on a arrêté l'agriculture et finalement on ne voit rien venir au bout de 3, 4, 5 ans, c'est qu'il faut attendre plus longtemps. Deuxième point, je dirais, bon, ça c'est un petit warning, on a vu de temps en temps des augmentations temporaires des teneurs en nitrate après les coupes forestières. Ils sont tout simplement liés à la minéralisation, hein, sous forme azotée des rémanents. Et donc, si on fait quelques coupes, et notamment très proche d'un captage, hein, on peut observer des variations des teneurs en nitrate dans l'aquifère qui sont liées à la minéralisation de ces eaux. Là, c'était un petit calcul, des calculs qu'on avait fait, où on voyait des coupes tous les 8 ans et des augmentations. Ces calculs montraient que les augmentations étaient proportionnelles à la coupe et donc ça peut être géré. Hein. Là, dans cet exemple-là, on avait montré que l'augmentation était de l'ordre d'un demi-milligramme par litre, hein, si on gérait bien les choses. Donc, quelque chose de très, très raisonnable. Voilà. Une petite alerte aussi, parce que ça peut nous concerner en milieu méditerranéen, c'est dans les milieux arides et semi-arides. Où je vous montre un exemple de travaux récents, hein, où on montre que si c'est un exemple qui vient du Brésil, hein, mais je pourrais montrer des exemples un peu similaires à Madagascar ou dans le Sahel. Dans le cas où les arbres vont pomper de l'eau souterraine dans la nappe et l'évapotranspire, on va concentrer localement les sels liés à cette évapotranspiration. Alors on voit que là, on est sur des problématiques d'échelle de temps qui se comptent en centaines d'années, hein, plutôt qu'en années, mais que dans ces cas de figure, ben, on passe d'exemples où on a une eau qui est très très douce, qui va devenir salée, qui peut devenir aussi salée que de l'eau de mer. Alors cet exemple-là que je présente au Brésil, hein, on l'a plutôt observé dans l'autre sens, c'est-à-dire que après la colonisation, du fait de l'éradication, entre guillemets, de la couverture végétale native, on a une eau qui devient plus douce. Mais il faut se méfier, notamment dans certains milieux où on a une porosité assez faible, d'effets de bascule qui peuvent aller assez vite. C'est visible surtout en contexte semi-aride, hein, mais gardons-le à l'esprit puisqu'on parle en climat méditerranéen. Et plutôt dans les milieux cristallins, ce qu'on aurait plutôt dans les Maures, dans l'Esterel, dans les Pyrénées-Orientales, plutôt que dans les milieux sédimentaires. Et puis des essences adaptées, qui sont capables de pomper l'eau en profondeur. Alors, en conclusion, hein, puisque je crois que j'arrive au bout du temps imparti, je ne reviendrai pas sur les atouts de la forêt, vous allez en parler longuement. Si on parle de forêt hydrologie, on sait qu'il y a des bénéfices, on vient de les voir, notamment sur la qualité de l'eau, les problématiques d'érosion. Il peut y avoir des impacts sur la ressource en eau, on vient de les citer. Donc je dirais, faisons appel à de la rationalité dans le domaine de l'eau, Claude l'a présenté tout à l'heure, en faisant appel aux hydrologues, hein, notamment si on a des coupes ou des reboisements importants, en fait, vis-à-vis de la surface du bassin versant, donc la surface concernée par un captage, par une rivière, qui nous intéresse. Et c'est là où l'interaction avec l'hydrologue est importante, hein, puisque Ça va être de bien cerner à partir de quel volume de coupe ou de reboisement ça peut devenir significatif. D'autant plus qu'on est dans un climat sec. Alors, on est bien placé pour le savoir en climat méditerranéen. Et puis, avec des types d'essences, notamment des essences pérennes ou adaptées au prélèvement en nappe, qui pourraient avoir des impacts significatifs. Comme l'a dit Claude, on est dans un contexte de changement climatique, hein, dans lequel l'augmentation de la période végétative, de sa durée, va et risque d'avoir des impacts dans le futur, donc à prendre en considération. Et on pourrait dire en quelques mots que, une sensibilité des bassins versants, surtout si on fait de la reforestation, elle va être d'autant plus importante que les sols sont épais, pardon. Puisque l'eau, ils vont pouvoir stocker plus d'eau qui va être mieux utilisée par la végétation, que l'on a aujourd'hui un fort ruissellement, hein, et notamment sur des granites ou des schistes sur forte pente. Sur ce fort ruissellement, on peut éventuellement compenser les impacts sur la ressource en eau. Par contre, si on est sur des sols qui ont déjà un faible ruissellement, on risque de ne pas avoir de compensation et d'avoir des impacts plus forts sur la ressource en eau. Voilà, donc en maître mot, faites appel, je fais un peu de pub, hein, faites appel aux hydrologues qui ont les outils, les compétences et les données à disposition pour aider les forestiers, pour essayer de limiter au maximum les impacts sur la ressource en eau. Voilà, bah, écoutez, merci pour votre attention. Et comme vous l'avez dit, ben à votre disposition pour des questions et de la discussion.
Merci, merci Patrick Lachassagne pour cet exposé très clair. L'appel est entendu. Effectivement, ça va dans le sens de ce que nous recommandons, travailler ensemble, additionner les compétences et les expertises. C'est une suggestion tout à fait utile et intéressante. J'ai envie qu'on prenne une dizaine de minutes, un peu d'échange autour de ça, après ces deux exposés qui sont quand même pouf. On partait sur des idées simples et ces idées simples sont remises en cause, du moins atténuées, du moins contextualisées. Et il est important qu'on soit conscient de tout ça. Une question dans la salle, quelqu'un qui voudrait demander des compléments d'information ou des choses un peu difficiles qui auraient été, qui mériteraient précision? Oui, c'était chaud, hein, vos exposés, chers amis. Bon, eh ben, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. On comprend que les choses sont complexes, que selon le lieu, selon le climat, selon tout un tas de choses, les effets sont différents. Rien n'est tout blanc ou tout noir, on est vraiment dans le gris. Alors après l'incolore, le vert, le bleu, maintenant le gris, ça fait vraiment une mosaïque avec laquelle il va falloir jouer. On a 2 jours pour préciser tout ça. On va commencer à le faire avec un lieu, le parc naturel régional des Grands Causses. Laurent Danneville, bonjour, il descend jusqu'à nous et se rapproche de l'ordinateur. Laurent Danneville, du PNR des Grands Causses, va revenir sur cette question enjeux forêt et eau, pardon, retour d'expérience à l'échelle de ce parc naturel régional. Patrick Lachassagne, je crois que vous deviez partir, vous n'allez pas pouvoir rester avec nous pour le temps d'échange qu'on aura en fin de matinée, c'est bien ça?
Non, 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 j'ai pu me libérer, je reste avec vous jusqu'à 13 h.
Ah ben c'est formidable. Parfait. Merci beaucoup. Laurent? Il faut relancer l'ordinateur. Aïe, aïe, aïe. Place aux questions. Alors, il faut se bouger un peu pour trouver une question dans tout ce qu'on a noté tout à l'heure. Oui. Philippe Anse, DRAF Occitanie.
Philippe Hans, chef de l'unité forêt gestion durable au CERFOB, donc à la DRAF Occitanie. Donc en étant un peu iconoclaste et en essayant de résumer et de condenser, en ne parlant que de l'eau et non pas de l'intérêt de la forêt sur la biodiversité, production, etc., etc., j'ai l'impression d'avoir retenu qu'on se porterait mieux sans avoir de forêt.
Ben oui, on pourrait se laisser aller à penser ça. Est-ce que Claude ou Patrick a envie de remettre en question ce résumé aussi laconique, mais qui pourrait être utilisé par certains? Claude?
Oui, ou moi-même, j'ai...
Alors allez-y, Patrick.
Oui, si vous m'entendez. Alors, si je veux rester dans cette veine-là... Prenons un petit bassin versant qui fait 3 km², en aval duquel se trouve une source dans une région du Massif central, par exemple granitique ou métamorphique, qui aujourd'hui est en prairie, et replantons là-dessus des résineux, il y a tout lieu de penser que le débit de cette source qui alimente un village va chuter peut-être de 30 ou 40% dans les 5, 10, 15 ou 20 années qui suivront. Donc si on se place de manière purement quantitative, il faut se méfier, enfin il faut faire attention à une politique de ce type-là. Par contre, si on regarde d'autres problématiques, d'autres aménités, si aujourd'hui cette source elle est sous des prairies, que ces prairies il y a de l'épandage de lisier en grande quantité et qu'elle est à 100 mg par litre de nitrate, le remplacement par la forêt va sûrement faire baisser dans les 10, 20 ou 30 années qui vont suivre les nitrates de 100 mg par litre à 7 ou 8 mg par litre. Donc en fait, il faut faire la balance des risques et bénéfices de chacune des politiques.
Ok, mais renversons
par contre,
la chose.
Si on travaille sur...
Oui, renversons la chose, parce que vous parlez de reboisement de zones agricoles. Nous constatons que nous avons dans la région méditerranéenne une forêt dans des états divers, il est vrai, mais qui couvre plus de 50% du territoire. Est-ce que, si on va dans le sens de ce que dit Philippe Hans, il faut qu'on déboise ces endroits-là? Claude? On est dans la caricature, là, ça peut aider.
On est dans la caricature. Non, mais ce que disait Patrick précédemment, c'est vrai, c'est qu'en général, on observe pour l'eau bleue, une diminution de l'eau bleue, si on veut, quand on a de la forêt. Après, est-ce que c'est un problème globalement ou pas? C'est-à-dire que finalement, est-ce que ça ne doit pas être compassé par une rationalisation de l'utilisation de l'eau côté humain? Je pense en agriculture en particulier, parce que en effet, comme le disait Patrick aussi tout à l'heure, les bénéfices de la forêt, ils sont, elle est multifonctionnelle, vous le savez tous. D'un point de vue hydrologique, c'est contrasté. C'est ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est contrasté. Ce n'est pas l'échelle à laquelle on regarde. Moi, j'ai abordé un peu les plus grandes échelles. On peut voir qu'il y a des influences qui sont en dehors du bassin versant, par rapport au fait qu'il y ait des grandes forêts. Dans le cas méditerranéen, ce n'est pas les très grandes forêts, évidemment. Par contre, elle a des avantages, en effet. Elle a des avantages en termes d'épuration de l'eau. Elle a des avantages en termes d'écosystémiques qui n'ont pas été abordés, hein, en termes de diversité. Et donc, elles peuvent être gérées également, ces forêts. Il peut y avoir un optimum. C'est ce que je voulais dire un peu naïvement, peut-être, en parlant de la recherche. C'est-à-dire que finalement, la sylviculture peut aider à avoir quelque chose qui n'impacte pas forcément l'eau qui va ruisseler, mais qui peut quand même optimiser aussi l'eau qui est rechargée par rapport à l'évapotranspiration. Donc il y a des choses à regarder au cas par cas. En effet, c'est ça le problème, hein, c'est comme en agriculture en général, c'est que c'est très dépendant de ce qui se passe localement, mais il ne faut pas oublier que ça a aussi des impacts un peu globaux. Donc il faut raisonner dans ces deux directions-là.
D'accord, enfin, voilà. Très bien. J'aime bien l'idée qui s'introduit là d'une gestion forestière qui permettrait d'optimiser. Alors on n'est pas simplement dans la prise de précaution pour ne pas dégrader les sols forestiers. Je fais là une allusion positive au nouveau SRGS Provence-Alpes-Côte d'Azur qui impose des cloisonnements lors des opérations forestières pour ne pas perturber l'ensemble des sols de la parcelle. Ce sont des choses qui sont évidemment essentielles, mais peut-être qu'il y a des éléments de sylviculture au-delà qui peuvent aider à optimiser cette dimension-là de la contribution de la forêt à une recharge des nappes et à une bonne économie de l'eau. Mais n'allons pas tout de suite vers des conclusions qui seraient souhaitées. Restons dans l'analyse. Patrick, vous voulez ajouter quelque chose encore ?
Oui, et ça pourra peut-être introduire le débat de la fin de la matinée, en fait.